et Paris Descartes qui nous accueille dans cet amphithéâtre Binet. Donc je vous présente Boris Cyrulnik. Il est neurologue, psychiatre, psychanalyste, éthologue. Il est directeur d'enseignement depuis 1996 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Toulon. Bon, il a d'innombrables responsabilités, comme par exemple la présidence du centre de création de Château-Vallon. Surtout ses ouvrages, je ne vais pas tous les citer, mais rappeler quelques-uns qui ont connu un très grand succès et je pense que vous précipiterez pour les lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Parler d'amour au bord du gouffre en 2004, chez Odile Jacob. Trauma et résilience, le concept de résilience l'a rendu fameux en 2005, toujours chez Odile Jacob. De chair et d'âme, 2006, Odile Jacob. Mourir de dire, la honte, chez Odile Jacob en 2010. Quand un enfant se donne la mort, chez Odile Jacob en 2011. Donc, je lui laisse la parole pour parler de son sujet, et puis ensuite, il y aura du temps pour les questions. Simplement, j'insiste, compte tenu du fait que vous êtes très nombreux, pour que vous posiez vraiment des questions, et non pas vous exposiez votre vision du monde. Si c'était pas possible, je sais bien que tout le monde a le droit d'avoir sa vision du monde, mais tout le monde n'est pas invité à donner une conférence. Voilà, Boris Cyrulnik, c'est à vous.
Merci. Bon, ben... Heureusement, vous êtes là. Comme ça, j'aurai moins peur parce que, en fait, j'ai été étudiant dans cette salle-là en première année de médecine. C'était ici qu'il y avait les cours de chimie. Et j'en garde un très mauvais souvenir. Alors, par bonheur, puisque vous êtes là, j'ai moins peur et on va parler de violence. Alors, bon, il y a le magicien. Bon, je voulais commencer par...
Bon. Quelques places ici en bas encore, je signale, hein, en interrompant Boris Cyrulnik, en lui demandant de s'excuser. Il reste quelques places ici en contrebas. Hein.
Voilà.
Pendant qu'on met au point la machinerie. Voilà.
Alors voilà, je vais commencer par un problème de définition. Cette définition, je propose que ce soit ce gars-là qui nous la définisse. C'est-à-dire que ce rouge-gorge, on dit, nous, êtres humains, il chante, et c'est effectivement très joli d'entendre un rouge-gorge chanter. Si vous mettez le rouge-gorge tout seul, il arrête de chanter, et si vous mettez une plume rouge dans son champ visuel, il se remet à chanter. Alors, comment interpréter ça? Eh bien, en fait, c'est dans le rouge-gorge, c'est une déclaration de préparation à la bagarre, c'est-à-dire qu'il suffit que dans son champ visuel il y ait une plume rouge pour que le rouge-gorge lui dise, mais dans son langage de rouge-gorge, tu es chez moi, va-t'en ou je te détruis. Alors, ce rouge-gorge charmant, en fait, est un grand combattant et il permet de faire la distinction qu'on fait en éthologie, d'habitude, entre l'agressivité et la violence. Dans l'agressivité, ad gredior, je vais dans ton champ visuel et je vais te dire ce que je pense, moi. Je suis pas d'accord avec toi, je vais t'affronter, mais je veux pas ta mort, je veux simplement me poser face à toi, je suis agressif, je vais chez toi et je te le dis. Alors je te le dis avec des mots ou je te le dis avec des chants de rouge-gorge, j'ai mille manières de le dire. Alors que dans la violence, c'est assez différent. Dans la violence, moi, violent, je suis pris d'une pulsion que je ne peux pas contrôler ou que je ne veux pas contrôler, et je veux rentrer dans ton corps, dans ton âme, et te faire exploser. Mais finalement, je ne sais pas très bien qui tu es. Simplement, je ne veux pas que tu sois là. Je veux que tu disparaisses de la planète et je veux te faire exploser. Alors que dans l'agression, ad gredior, je vais te dire qui je suis et si tu... on va répartir nos territoires. Alors, chez les animaux, la médiatisation commence parce qu'il commence déjà à y avoir des cris, des structures de cris. Les animaux ne crient pas au hasard. On sait enregistrer, il y a une quarantaine de cris chez les goélands, Je fais partie d'un club de goélands honoraires à Porquerolles. On se réunit tous les ans au mois de mai-juin, après la naissance des petits. Et il y a une quarantaine de cris associés à des postures. Il y a le cri de triomphe, le cri de quémandage alimentaire, le cri de parade, le cri de solitude, etc. 40 cris et une cinquantaine de postures, ça fait un langage préverbal de 90 items. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça. C'est-à-dire que c'est un langage préverbal, c'est un code bien sûr, c'est pas un signe, mais c'est des signaux qui ne sont pas émis au hasard. Alors la médiatisation commence parce que la structure des cris désigne quelque chose qui n'est pas là. Lorsque un singe crie, schématiquement, il y a des singes guetteurs, des macaques guetteurs, et la structure de leur cri désigne d'où vient l'agression. Il y a une structure de cri, si c'est un aigle, l'agression vient d'en haut. Une autre structure de cri, si c'est un guépard, l'agression est horizontale sur le sol ou sur l'arbre. L'agression vient d'en bas, si c'est un serpent. Et quand on en enregistre ces cris avec un magnétophone, on attend la sieste des macaques, et on pousse le cri qui veut dire, en langage macaque, attention, c'est un serpent. Et tous les macaques, sans regarder d'où vient le prédateur, tous les macaques bondissent dans l'arbre. En revanche, si on pousse, on met sur le magnéto le cri qui veut dire c'est un prédateur qui vient du ciel, sans regarder le ciel, tous les macaques plongent vers le sol. Donc il y a un début de... C'est déjà plus stimulus-réponse. Alors, c'est déjà une organisation de l'information qui désigne quelque chose qui n'est pas là, et l'animal répond à quelque chose qui vient à la place de l'objet désigné et qui n'est pas là. Alors, bien sûr, chez les êtres humains, cette médiatisation, elle est forcenée. Elle est forcenée par nos mots, bien sûr, parce que la convention du signe nous permet de faire vivre 1000 mondes absents, et ces mondes absents, on va les éprouver intensément, et l'idée que je vous propose, c'est que peut-être on va éprouver une émotion beaucoup plus intense si elle est provoquée par une représentation que si elle est provoquée par une perception. Alors, donc ça veut dire que ce qu'on perçoit, nous, êtres humains, c'est une fabrication culturelle convenue d'un mot, d'un geste, d'un signe, hein, quasi-linguistique. Nous, êtres humains, on sémantise absolument tout le monde. On sémantise la manière de se couper les cheveux, veut dire quelque chose, hein, quand on peut employer ce langage. C'est-à-dire que nos cheveux veulent dire « je suis contre-culturel » ou au contraire « je suis maniéré ». Donc les vêtements, bien sûr, les vêtements sont une véritable écriture qui veulent dire « moi j'aime l'élégance, moi je veux paraître décontracté, moi j'ai peur d'être maniéré », etc. Nous, êtres humains, on sémantise les mots, les gestes, les vêtements, on sémantise même les poils. C'est-à-dire que, je parlais des cheveux de Monsieur Millot, je parle par oui-dire pour moi, mais tous les poils sont sémantisés. Vous avez les poils d'extrême gauche et les poils d'extrême droite. C'est-à-dire que... Et ça parle, ça veut dire... C'est-à-dire que c'est un engagement. Les tissus, les chiffons sont bien sûr sémantisés. Ce qui n'empêche que actuellement, dans notre culture du XXIe siècle, la médiatisation se fait de manière forcenée par les écrans. Et nos enfants se développent avec des écrans, et maintenant que sur d'autres écrans, on sait faire une résonance magnétique, on sait faire une neuroimagerie pour aller vite, on voit que les enfants, nos enfants, façonnés, élevés au contact d'écran, on voit que leurs neurones miroirs ont un retard à l'allumage. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne moins plus de la même, j'allais dire moins bien, mais je le dis pas, il fonctionne autrement, peut-être mieux, peut-être moins bien, autrement, parce que nos enfants sont élevés au contact d'écran, alors que nous, on avait même à peine la télévision. Enfin, moi, je n'ai pas connu la radio après la guerre. Tout le monde n'avait pas la radio. Donc, ça veut dire que là, on a créé une niche technologique qui façonne le cerveau de nos enfants et la manière de percevoir le monde. C'est-à-dire qu'une fois que le cerveau est structuré par le milieu, il ne voit plus n'importe quel monde. Le monde qu'il voit, c'est le monde auquel il a été rendu sensible, auquel son cerveau a été sculpté pour percevoir mieux un type d'information qu'un autre. Alors, j'étais en Russie il n'y a pas longtemps où il y avait un projet de chaîne de télévision pour bébés. Et effectivement, les bébés face à la télévision sont médusés. Ils bougent pas, ils nous fichent la paix, on est tranquille, mais eux, ils n'apprennent rien, parce qu'il n'y a pas d'interaction. Ils n'ont pas à décoder les mimiques faciales des autres, ils n'ont pas à décoder les sons des autres, les gestes des autres. Ils sont médusés, ils sont bien, et ils n'apprennent plus. Et surtout, ils n'apprennent plus les rituels d'interaction dont je vais parler. Ce qui veut dire que, si vous acceptez cette petite introduction, ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs natures de violence? On peut mettre nature au pluriel, il veut pas répondre, il y a plusieurs natures de violence. Il y aurait peut-être une violence, il y a une violence biologique. Ceux qui ont pris du crack dans la salle savent bien que toute stimulation provoque une violence impossible à réprimer. Quand j'étais en neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière, il n'était pas rare de voir certaines tumeurs temporales qui écrasaient l'amygdale rhinencéphalique et l'amygdale rhinencéphalique, c'est le lieu du cerveau, le magma neuronal qui permet de traiter les émotions. Or, quand cette amygdale était stimulée par la compression, écrasée par la compression, et quand on disait bonjour aux gens, qu'est-ce que vous allez me dire? Ils répondaient, pour eux c'était une agression à laquelle ils répondaient par une agression. Et dès qu'on leur enlevait la tumeur, quand c'était une tumeur bénigne, ils disaient, excusez-moi, je n'arrivais pas à contrôler mes émotions, je ne pouvais pas, c'était plus fort que moi. C'était les phrases qu'ils prononçaient. Ça veut dire que, bien sûr, il y a un socle neurologique de la violence. Il y a certaines maladies génétiques, comme par exemple la maladie de Lesch-Nyhan, qui est rare, mais qui ne détruit pas certains acides aminés, et le métabolisme de l'acide aminé stimule cette amygdale rhinencéphalique, et pour ces enfants, c'est des garçons, pour ces enfants, on leur sourit, pour eux c'est une agression. On leur dit bonjour, c'est une agression. C'est-à-dire, et ils répondent par une violence extrême. Alors bien sûr, c'est une fois que j'ai dit ça, j'ai presque pas parlé de la violence. Elle existe, bien sûr, mais elle est rare, mais elle existe. La violence interactive, elle est beaucoup plus fréquente parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a été rendu sensibilisé, on perçoit un signal de violence sur l'autre, et si on n'a pas acquis la maîtrise émotionnelle de la parole ou des rituels culturels qui nous permettent de maîtriser la violence, et ben on répond à la violence par la violence, et c'est ce qui se passe quand un enfant, un garçon surtout, quand n'est pas structuré par la maîtrise de la parole ou par l'apprentissage des rituels culturels, si il y a un déterminant biologique de la violence, il ne peut pas ne pas répondre. Alors actuellement, avec Philippe Courtet, qui est un ami de Frank Bayle, il va sortir un livre sur les interactions précoces. Or, il se trouve que lorsqu'un bébé, dernière semaine de la grossesse, premier mois de la vie, bien avant la parole, lorsqu'un bébé a été placé en isolement affectif, lorsqu'un bébé a été placé en isolement affectif, ces lobes, ces fibres, ces neurones préfrontaux n'ont pas été synaptisés, n'ont pas été connectés puisqu'il n'y avait pas de stimulation. Il était seul, il était isolé. Ce que vous avez vu à la télévision sur les petits Roumains. C'est pas bien, c'est pas sympathique pour les Roumains qui ont fait énormément de progrès, puisqu'actuellement, l'abandon en Europe, c'est surtout en Bulgarie et dans la riche Tchécoslovaquie. Mais il y a eu cette tragédie de Ceausescu qui, à cause d'une pensée politique absurde et criminelle, obligeait les femmes à mettre au monde beaucoup d'enfants et il n'y avait rien pour s'en occuper. Elle devait travailler 14 ou 16 heures par jour, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait rien, donc ça a rempli ce qu'on appelle abusivement les orphelinats. En fait, c'était des mouroirs où on abandonnait les enfants en espérant qu'ils allaient mourir. Or, quand il n'y avait aucune stimulation autour de ces enfants, les fibres préfrontales n'étaient pas stimulées et on avait un trou. Au scanner de ville, c'était même pas une recherche de haut niveau, hein, c'était le scanner de ville, on voyait sans difficulté une atrophie des deux lobes préfrontaux. Or, une des fonctions neurologiques du lobe préfrontal, c'est d'anticiper. C'est pour ça que les lobotomisés ne peuvent plus raconter leur vie, parce qu'ils ne peuvent plus anticiper leur passé. Et c'est pas une figure de rhétorique. Ils ne peuvent plus aller chercher dans leur passé les images et les mots pour en faire un récit. On sait qu'ils ont une bonne mémoire, mais ils ne peuvent quand même pas faire un récit parce qu'ils ne peuvent pas anticiper leur passé. Alors, mais lorsque ces fibres, ces neurones préfrontaux ont une autre fonction qui est d'inhiber l'amygdale, et on voit que lorsque cette amygdale n'est pas inhibée parce que l'enfant n'a pas été entouré affectivement par la banalité du quotidien, jouer, gronder, parler, toiletter, enfin la vie banale, la banalité du quotidien a une fonction de sculpture sur le cerveau. Lorsque ces enfants ont été abandonnés, dans ce cas-là par une pensée absurde et criminelle, l'amygdale rhinencéphalique est multipliée par 4. C'est-à-dire que ces enfants, comme je l'ai vécu en Roumanie, il y a beaucoup de gens qui, ou en Colombie, partout où un enfant est abandonné, hein, lorsque la niche sensorielle est appauvrie, les enfants répondent à tout, toute information pour eux est une violence à laquelle ils répondent par une violence. On leur a souri, quand on a vu ces enfants, on leur a souri. Dans un monde d'enfants acculturés, c'est un sourire. Ce monsieur, cette dame, elle est gentille. Dans un monde d'enfants privés d'altérité, le sourire, c'est montrer ses dents, agresser. On leur tendait les mains. Dans un monde d'enfants acculturés, c'est je vais te caresser ou je vais t'offrir une offrande alimentaire. Dans un monde d'enfants déculturés, c'est une agression, je vais te battre. Et il répondait à cette agression par une agression. C'est-à-dire que un accident environnemental très précoce, fin de grossesse, premier mois, sculptait le cerveau de telle manière que l'enfant avait acquis, Philippe Courtet dit, une vulnérabilité neuro-émotionnelle. Parce que son cerveau était sain, c'est l'environnement qui était abîmé. Et son environnement abîmé avait abîmé les fibres préfrontales qui avaient libéré l'amygdale, qui fait que pour cet enfant, tout était violence. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah ben là, c'est juste, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais je dis ça, voilà. Donc ça veut dire que, la première forme de violence, c'est la violence biologique, j'en ai parlé, la violence interactive, je viens d'en parler à l'instant, mais la violence dont on va parler pendant les 5 heures qui me restent, c'est... 6 heures, ça. C'est la violence des représentations, celle qui fait notre culture. Toutes les cultures vivent dans les représentations, les peintures, les chants, les mots, les vêtements, tout ce que je disais tout à l'heure. Mais nous, on vit dans un monde d'hyper-représentation, et notamment les écrans fabriquent une niche affective structurée par énormément d'écrans. Or, on voit que ces écrans, on provoque très souvent une violence brûlante. C'est-à-dire que cette violence brûlante, c'est l'indignation. Je vois, je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai vu que tu voulais m'agresser. Et cette violence brûlante provoque une réponse brûlante. Alors, ce discours d'image, ben, on le vit actuellement avec la vie quotidienne en France ou en Europe, ou avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, mais ça se passe aussi dans d'autres cultures. On voit sur les écrans des échantillons de violence qu'on généralise jusqu'à l'absurde, et on s'indigne sans réfléchir, parce que je crois que l'indignation est un empêchement au jugement, nous fait perdre notre jugement, puisqu'on est emporté. Et c'est presque une forme d'indignation, et presque une forme de maîtrise de notre monde mental par l'image que j'ai vue sur les écrans et qui m'indigne, que je ne supporte pas, et je perds ma faculté de jugement, et je réponds, je m'engage par ce que j'ai vu sur les écrans. Toutes les propagandes politiques sont faites comme ça, et les films érotiques sont faits comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est une violence fabriquée pour provoquer une émotion sans maîtrise. Alors, bien sûr, la plus forte forme, la plus dangereuse forme de violence, c'est la violence froide. Voilà l'arme de la violence froide, le stylo. Je peux, d'une signature, empêcher 10 000 enfants d'aller à l'école. Vous êtes des enfants de Rome ? Je signe, tous les enfants seront pris à l'école, sauf les vôtres. D'une signature, j'ai massacré l'existence de 10 000 enfants. Alors cette violence froide, elle est parfaitement supportée, c'est une loi, c'est une rumeur, c'est un préjugé, c'est une habitude, on prend l'habitude, ben non, ces enfants, regardez les enfants, ces enfants des quartiers, ils sont mauvais à l'école, c'est pas la peine de développer l'école, ça sert à rien. Donc voilà un exemple de violence froide qui rentre dans les stéréotypes et qui sont des pertes de jugement, des pertes de liberté intime, des pertes de liberté intérieure. Il y a aussi une autre, et ça mène très souvent au dogme. Alors il y a le dogme philosophique, les copains de Michaud, il y a beaucoup de dogmatiques. Les scientifiques ne se privent pas de dogme, d'être dogmatiques, les médecins ne se privent pas d'être dogmatiques. Et quand j'étais étudiant en médecine, dans cette salle, dont je garde un mauvais souvenir, quand j'étais étudiant en médecine, on nous apprenait que un neurone, c'était pas la peine de faire de la neurochirurgie, nous disait-on, parce que les neurones ne se renouvellent pas, et que quand un cerveau est abîmé, il est perdu. Et ce dogme prescrivait des comportements, c'est-à-dire que nos interactions avec un traumatisé du crâne, c'est il n'y a rien à faire. Nos interactions avec un enfant abandonné, alors il n'y avait pas de scanner à cette époque-là, mais il y avait les encéphalographies gazeuses. On enlevait le liquide céphalorachidien et on faisait les photographies de radio, et à la place il y avait une ombre noire, et on voyait qu'un enfant abandonné avait une atrophie fronto-limbique. Et on disait, vous voyez, ces enfants ont été abandonnés parce que ce sont des encéphalopathes. Ils ont regardé leur cerveau comme il est mal formé. Leur cerveau est mal formé parce qu'ils ont été abandonnés. C'était le contraire. C'est-à-dire que le dogme avait frappé. Et nos décisions médicales, nos décisions scientifiques, les décisions philosophiques, j'imagine que ça doit être pareil, sont prises parfois sur un dogme qui est confortable. C'est le dogme, c'est la pensée paresseuse, c'est un grand avantage, c'est que ça nous permet d'être tranquille et de ne pas avoir à faire l'effort de réfléchir. Alors, c'est tout bénef parce que à ce moment-là, on se soumet au chef d'école, chef religieux, chef politique, qui va nous dire ce qu'il faut penser. Et nous, on va avoir un grand bénéfice à la soumission. Non seulement ça va nous éviter de penser, parce que c'est fatigant, mais en plus, si on commet un crime, on sera complètement non coupable. Je peux commettre un crime sans aucune honte, sans aucune culpabilité, parce que je n'ai fait qu'obéir. le responsable, c'est le chef, qui va dire, mais non, moi aussi j'ai fait qu'obéir, mon responsable, c'est le chef. Ah non, moi aussi j'ai fait, mon responsable, c'est... Donc on va grimper comme ça jusqu'aux cieux, et les enfants, les êtres humains, vont être massacrés sans culpabilité, sans honte et sans sentiment de crime. Alors, je vais vous dire une phrase qu'on a souvent lue, c'est par le crime que l'humanité s'ouvre à elle-même. Vous avez reconnu Papa Freud. Et Papa Freud et Lévi-Strauss développent cette idée, c'est-à-dire que on fabrique du social d'abord par le crime, et on voit par exemple, c'est peut-être aussi ce qui explique que la violence parfois soit créatrice. Si on est soumis à un dogme, on va évoluer vers la pétrification. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conflit, parce que s'il y a un conflit, ben vous serez déporté, rééduqué, torturé, vous aurez tous les participes passés qui vous permettront de devenir un être normal. Alors donc, pour lutter contre le dogme, il y a parfois la violence créatrice qui effondre le dogme. Souvent les dogmes s'effondrent d'eux-mêmes d'ailleurs. Mais quand quelqu'un, une fois, une théorie trop cohérente, coupée du réel, ne peut que se renforcer. Or le réel passe son temps à changer, à évoluer. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne prend pas conscience du réel. On prend conscience de la réalité, c'est-à-dire de ce qu'on extrait, la construction de ce qu'on extrait du réel. Or, le réel passe son temps à changer. Même les pierres changent, le climat change, les animaux, les êtres vivants, l'eau change. Donc, arrive un moment où la théorie devient tellement renforcée, tellement dogmatique, tellement forte, qu'elle est complètement désadaptée du réel. Et là, une pichenette l'a fait effondrer, même en science. Une pichenette l'a fait effondrer. Et cette pichenette, si elle ne vient pas, mais ça peut durer des siècles, hein, à ce moment-là, la pichenette, ça peut se venir d'un groupe humain, ou d'un philosophe, ou d'un scientifique, qui est mal vu, parce que sa violence sera créatrice. Alors, violence créatrice, elle dépend souvent des objets techniques. Tout à l'heure, je vous montrais l'objet de la violence, la violence froide, et on va parler de l'imprimerie. C'est une invention technique très facile. On prend un papier ou un parchemin et on marque une convention de signes dessus. C'est très facile. J'habite à Toulon. À Toulon, c'est le premier port de guerre de France. Et arrivent les marins étaient soumis au seul maître à bord après Dieu, c'est-à-dire le capitaine. Et pourquoi ils acceptaient cette soumission ? Parce que le capitaine était le seul à savoir faire le point. Et que si les hommes d'équipage balançaient le capitaine par-dessus bord, tout le monde mourait. Quand l'imprimerie est arrivée, effet bénéfique de l'imprimerie, très rapidement, des hommes d'équipage ont compris, c'est pas compliqué hein, d'apprendre à faire le point, mais il suffit d'apprendre. Très rapidement, des hommes d'équipage ont compris comment il fallait faire le point. Dès l'instant où un homme d'équipage savait faire le point, le capitaine ne pouvait plus être seul maître à bord après Dieu. Le partage du savoir, grâce à l'imprimerie, était le premier pas vers la démocratie. Alors, mais en même temps, l'imprimerie, le premier best-seller après l'imprimerie, ça a été le Malleus Maleficarum. Comment convertir spontanément les gens au catholicisme. Et quand on voit comment on faisait les brodequins pour écraser les tibias progressivement, quand on voit les règles de torture qui étaient écrites grâce à l'imprimerie dans le Malleus Maleficarum, le marteau, on se rend compte que on avait vraiment intérêt à se convertir rapidement. C'est-à-dire que un même objet technique en soi peut être la pire ou la meilleure des choses. Même raisonnement pour Internet qui a un effet de surlangue. C'est-à-dire que, avec ma langue, rien qu'en agitant la langue dans ma bouche, à condition qu'on ait passé la convention des signes, je peux faire vivre un monde de représentation totalement absente que nous allons partager. Et à ce moment-là, on voit qu'on peut vivre ensemble dans un monde de poésie, de science, de littérature, ou d'horreur, ou de rumeur. Je peux déclencher une rumeur, comme pour l'imprimerie, et Internet fait ça très bien. C'est-à-dire que cet effet de surlangue a un effet comme l'imprimerie. La communication est incroyablement améliorée. C'est-à-dire que, en tapant sur Internet, je peux faire vivre un monde absent et savoir ce qui se passe pratiquement en temps réel de l'autre côté de la planète. La communication est follement améliorée. Et la relation? Jamais Internet ne m'a fait un signe de tête. Jamais Internet ne m'a souri, ne m'a encouragé à continuer quand je lui fais des misères parce que ces machines sont redoutables. Jamais Internet, il y a une relation voisine de zéro, communication stupéfiante. Le résultat, c'est que le cerveau de nos enfants, qui est façonné par ce monde d'objets techniques, a un retard à l'allumage pour les neurones miroirs, et ce qu'on constate, c'est qu'ils apprennent certaines choses très très vite, mais ça arrête l'empathie, c'est-à-dire cette aptitude à se représenter les représentations d'un autre, est arrêtée puisqu'il n'y a pas d'autre dans Internet, il n'y a pas d'autre. Il y a des communications, des informations, mais il n'y a pas de relation. L'autre jour, quand je faisais mon rapport pour l'ancien gouvernement, le rapport sur le suicide, donc j'ai fouillé un petit peu sur Internet et j'ai trouvé des réactions stupéfiantes. Une dame, sa fille de 17 ans, se pend. Et elle éprouve le besoin de le dire à quelqu'un, de partager l'horreur, le malheur, et elle tape sur Internet, elle éprouve le besoin de... Il y avait peut-être... Autour d'elle, il n'y avait peut-être personne pour le dire, peut-être, probablement même. Donc elle va sur une machine en disant, il va y avoir des interlocuteurs qui vont comprendre. Et elle tape, je ne comprends pas. J'ai dit à ma fille, descends, le dîner est prêt. Je l'ai entendue chantonner. 10 minutes après, elle n'était pas descendue. J'ai ouvert la porte de sa chambre, elle était pendue. Je ne comprends pas. C'est pas rare du tout, ça. C'est un scénario de suicide qui n'est pas rare chez les adolescents. Et... il y avait des commentaires très sympas, et parmi les commentaires, il y avait des commentaires insupportables, dont un commentaire, « Connasse, t'avais qu'à mieux la surveiller ». J'affirme que celui ou celle qui a tapé ça sur Internet ne l'aurait pas dit. C'est-à-dire que s'il avait vu une dame malheureuse, il aurait éprouvé une émotion provoquée par ses mimiques, ses mots, ses pleurs, sa posture. Il y aurait eu une relation. Il aurait peut-être pensé. Mais il n'aurait pas dit. Là, aucun frein. Aucun frein, puisque l'autre existe à peine. L'autre, donc ça veut dire que l'empathie est très altérée par cette formation. Alors, bien sûr, tout à l'heure je vous parlais des poils, de la sémantisation des poils, les poils de l'extrême gauche et les poils de l'extrême droite, et là vous avez une image qui montre à quel point les poils sont sémantisés aujourd'hui encore. Hein. Et là, bien sûr, tout le monde, tous ceux qui votaient à l'extrême droite nazie avaient des petits poils sous le nez, mais sous Napoléon III, c'était pareil. Il y avait les poils de Jules Vallès. Je ne sais pas si vous avez lu Jules Vallès. Moi, il a enchanté mon enfance. Et je lisais Jules Vallès, et dans Jules Vallès, tous les marxistes et les gens de gauche se reconnaissaient en laissant pousser une barbe de gauche. Donc c'était pas la peine d'avoir une pancarte, c'était pas la peine. On savait qu'il était marxiste puisqu'il avait des poils de gauche. Et c'est comme ça qu'ils encadraient les manifestations. Mais Napoléon III avait très bien compris ça, et lui il avait une barbichette et une moustache pointue. Donc les gens, les fonctionnaires qui voulaient avoir une promotion, eh ben ils se laissaient pousser la moustache et ils avaient une promotion. C'est-à-dire que non seulement les poils veulent dire quelque chose, mais ils participaient à l'ascension sociale. Alors voilà ici un exemple d'imagerie nazie. L'ordre, c'est un discours politique, c'est un discours idéologique. L'ordre règne. Et toutes les manifestations nazies se caractérisaient par une mise en scène ordonnée, avec de quoi manipuler vos émotions. Je vais citer quelqu'un que peut-être vous reconnaîtrez. Il arrive, les tambours roulent, les oriflammes claquent, il monte dans la lumière, je pleure. Brasillach. C'est-à-dire qu'on voit encore maintenant des mises en scène, des scénarios qui ont pour enjeu de manipuler vos émotions. Alors, vous avez donc des émotions nazies, mais vous aviez d'autres émotions, c'était l'émotion du petit père des peuples. Tout le monde lui faisait des petits signes, on l'adorait, et puis il y avait des millions de personnes qui disparaissaient. Mais c'était un discours idéologique structuré par des images qui ont pour fonction de freiner le jugement en offrant une sorte de sensation d'évidence. Vous voyez que l'ordre règne, vous le voyez bien là. Eh bien, si vous votez pour moi, l'ordre régnera. Alors, on manipule la sensation d'évidence avec des images, plus encore qu'avec des mots. Or, nous, on vit maintenant dans un monde d'images. Or, la violence froide dont je parlais tout à l'heure, c'est une violence qui nécessite l'arrêt de l'empathie. Parce que si je vois l'enfant, si je le connais, et si je signe un papier, tu n'as pas le droit d'aller à l'école. Ou tu vas, je vais te mener au four. Je pense à un témoignage que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, une dame dont Germaine Tillon parle un peu, c'est-à-dire que une gardienne, on dit une gardienne SS, mais enfin c'est une gardienne, Germaine Tillon en parle. Elle dit, quand elles arrivaient dans les camps, leur première journée, elles étaient sidérées, hébétées, elles n'osaient pas parler devant l'horreur de ce qu'elles voyaient. Et Germaine Tillion dit, le cinquième jour, elles étaient comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être manipulé, on peut se soumettre à un contexte. Or, si je vois, si je connais, alors, cet enfant, une gardienne, le trouve mignon, elle l'embrasse, elle le toilette, elle lui apporte du chocolat, et puis un jour, elle reçoit l'ordre de le mener au four, elle le prend dans ses bras et elle le mène au four. C'est-à-dire qu'elle était soumise à une représentation, à un ordre indiscutable. C'est-à-dire que c'était vraiment l'exemple même de la violence froide, où c'est même pas la peine de se mettre en colère. Or, si je connais cet enfant, j'aurais du mal à signer un acte qui l'empêchera d'aller à l'école. Si je ne le connais pas, je peux très bien me soumettre à une représentation, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps en Bulgarie. Oh, les enfants de Rome, hein, ils n'ont pas une grande valeur, de toute façon, ils seront tous mauvais à l'école, donc ce n'est pas la peine de les envoyer. Donc, une violence froide est toute puissante, et beaucoup plus puissante. Et actuellement, les guerres, vous invitez demain un militaire. Or, à Toulon, je travaille beaucoup avec les psychiatres militaires. Et il raconte des choses assez terrifiantes et sur les guerres asymétriques modernes et intéressantes sur le plan psychologique. Ils disent que, par exemple, au Mali, en Afghanistan, en Somalie, parce que la France est engagée sur plusieurs fronts actuellement, les soldats qui vont au front, ou bien ils meurent, ou bien ils sont blessés, ou bien ils ont peur, mais ils n'ont pas de syndrome psychotraumatique. Ils ont peur, ils sont malheureux, ils rentrent au camp, et hop, la vie reprend. Patrick Clairvoy, Andrew Etang, Michel Delage, les psychiatres militaires avec qui je travaille à Toulon, disent « Il n'y a de syndrome psychotraumatique que chez les soldats qui restent au camp ». Parce que eux sont soumis à une représentation. Mon copain risque la mort pendant que moi je suis au camp. Il doit se passer des choses terrifiantes. Et là, il y a une représentation accablante, d'autant que les roquettes, comme on lit dans la presse et les journalistes répètent régulièrement, des roquettes artisanales, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir, une roquette artisanale qui pèse 300 kilos, les artisans sont habiles. Hein. C'est-à-dire que, or, ces roquettes, il y a des murs, il y a des capteurs thermiques qui fait que ça déclenche un signal sonore. Il y a des murs comme des morceaux de blocos, ils se blottissent, il y a très peu de morts, il y a très peu de blessés, Il y a énormément de syndromes psychotraumatiques parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur monde mental, c'est le rocket qui décide. Ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas regarder la télé, ils ne peuvent pas jouer aux cartes. Ils sont possédés et ils se font tout le temps une représentation des gens qui leur envoient des roquettes ou de leurs amis qui sont en train de mourir. Alors, on voit que on est en train de faire finalement une guerre des représentations. Et la télévision est parfaite pour ça. D'ailleurs, les attentats, celui dont on parle actuellement, ces attentats sont essentiellement faits pour passer à la télévision. Parce que c'est le plus sûr moyen de manipuler des représentations de masse. C'est-à-dire que si on veut faire peur aux gens, si on veut les convaincre, si on veut dresser un groupe contre un autre, il faut passer à la télévision et déclencher une émotion très forte en montrant de préférence des hommes en train de tirer. Alors ce qui provoque des émotions très fortes, c'est de montrer des enfants morts. Alors ça, c'est très très bien, c'est une recette qui permet de provoquer une indignation de qui vous voulez. Vous prenez un enfant, vous le tuez, vous le faites passer à la télévision et les gens votent pour vous, ils votent comme vous voulez. C'est-à-dire que là, on a une arme qui permet de maîtriser les représentations du monde mental des autres. Et je pense que cet attentat de Nairobi, ils le savaient qu'ils allaient mourir probablement, mais c'était un attentat qui a été fortement, qui est passé sur toutes les chaînes de tous les mondes du monde entier, qui voulait dire, c'était une mise en scène d'image, mais c'est pour provoquer des émotions, qui voulait dire, voilà ce qui vous attend si vous ne vous soumettez pas à nos idées, à nos dits. Alors, le problème dans ce problème d'arrêt de l'empathie, c'est que c'est un copain de Gilles Deleuze, un copain à Michaud, qui dit quand j'étais étudiant en médecine, la définition de la perversion, c'était ceux qui s'accouplent sans avoir l'intention de faire un enfant. C'est-à-dire que j'en vois dans la salle, hein, votre cerveau. Donc c'est une définition qui n'a bien sûr aucun sens. Son copain, Gilles Deleuze, dit la définition qu'on doit donner aujourd'hui de la perversion, c'est celui surtout, qui habite un monde sans autre. Lacan, je suis seul au monde, seul mon désir compte. Et les autres ne sont pas des vrais êtres humains, ce sont des marionnettes, des ombres, destinées à réaliser mes désirs. Ah oui, mais tu l'as fait beaucoup souffrir, tu as détruit cette famille. Ah oui, mais j'ai passé une bonne soirée. Ah oui, mais regarde maintenant ce que ça... Ah oui, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que je me suis amusé. Perversion. La définition actuelle de la perversion, c'est ça, un monde sans autre. Or, la technologie moderne est en train de développer, de freiner l'empathie et de créer un monde sans autre. Alors, Danziger, qui est un neurologue, et Gérard Jorland, qui est un philosophe, mais qui est bien quand même, hein, et qui travaille beaucoup sur l'empathie. Et il travaille sur l'empathie en éthologie, c'est-à-dire chez les animaux, un début d'empathie. Alors, c'est se mettre à la place de l'autre. Chez les animaux, déjà, certains animaux, c'est déjà plus une chose, c'est déjà un être vivant proche de moi. Et cet arrêt de l'empathie, on peut l'avoir avec la neurologie, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un lobe préfrontal pour anticiper et comprendre que si je la menace, si je fais ça, si je dis des mots, ça va plus tard faire quelque chose dans son monde mental. C'est-à-dire que si on vit dans une culture du sprint comme la nôtre, si on vit dans une culture de l'immédiat comme la nôtre, encore un argument pour freiner l'empathie. Allez, on n'a pas le temps, on verra plus tard, on n'a pas le temps de se poser ces problèmes. Cette culture du sprint, qui est développée en Occident et en Corée du Sud, au Japon, pour que les enfants fassent très vite des performances, freine l'empathie. Alors, c'est un peu paradoxal, c'est que une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, probablement va vivre un siècle. Pourquoi la faire sprinter à l'école ? Si elle perd un an ou deux alors qu'elle va vivre un siècle, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle perde un an ou deux? Alors, donc, oh ben non, on est dans la culture du sprint, allez, apprends vite, vend. Alors, on a cette culture du sprint facilite un petit peu cette guerre des représentations, puisque on peut détruire un autre sans aucune culpabilité. Alors, les guerres jusqu'à maintenant, elles étaient plus symétriques. Il y avait des champs de bataille, il y avait une armée contre une autre, et après la guerre, on faisait les tapisseries, la bataille d'Hastings, on faisait des tableaux, on voyait Napoléon sur un beau cheval blanc, pendant que ses soldats mouraient dans la boue. Mais on faisait le cinéma, la guerre est une grande productrice de films et de romans. La guerre, supprimez le malheur et vous allez voir ce qui reste comme roman, comme film, où il ne restera pas grand-chose. Or, mais maintenant, on se rend compte que grâce au monde des médias, on peut soumettre l'autre et le manipuler avec des films. Alors bien sûr, il y a, par exemple, il y a les fours d'Auschwitz, il y a les amoncellements de cadavres qu'on attribue à Auschwitz alors qu'il n'était pas d'Auschwitz. Il y a Sabra et Shatila, qu'on attribue aux Israéliens alors que pas un Israélien n'est rentré dans Sabra et Shatila. Donc on voit comment on manipule très bien, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc cette manipulation-là peut se faire de manière très efficace. Et il y a maintenant la violence des représentations. C'est-à-dire qu'il y a une sportive de haut niveau qui a été filmée il n'y a pas longtemps, à son insu, au moment où elle effectuait avec son amant une hardiesse sexuelle. Et ce film a été mis sur Internet. Elle a été ravagée. Elle n'a pas été agressée physiquement, elle n'a pas été violée, elle a été violée virtuellement, et elle a été ravagée, elle a été très mal. C'est-à-dire qu'on voit la puissance de cet outil, c'est-à-dire que cette fille qui n'a pas été touchée, qui n'a pas été agressée physiquement, a été mal pendant, très mal pendant plus d'un an, parce que c'était passé sur Internet. C'était elle qui était passée. Donc on peut maintenant parler de viol virtuel. Alors, la technologie, bien sûr, il y a l'urbanisme qui représente aussi une forme de technologie. Et on voit que dans les faubourgs lointains, ces faubourgs lointains sont de plus en plus déculturés. Donc, quand la déculturation arrive, les processus de socialisation archaïque se remettent en place. Si on n'a plus la parole, si on n'a plus les rituels, si on n'a plus les rencontres pour s'expliquer et faire la connaissance de l'autre, si on n'a plus ces possibilités, l'autre d'une autre culture, l'autre d'une autre religion, l'autre d'une autre couleur, d'un autre pays, d'une autre conception de la vie, si on n'a plus la possibilité de faire connaissance de l'autre, on se laisse entraîner délicieusement vers la perversion. Alors, l'urbanisme, actuellement, est une forme de technologie étonnante, et on voit que, ce que j'ai vu à Mexico, 28 millions d'habitants, le centre de Mexico est une merveille, et plus on s'éloigne, plus c'est déculturé. Il y a des maisons magnifiques, il y a une culture mexicaine, soit la culture ancienne, soit la culture coloniale, qui est très belle aussi, qui est très belle, et plus on s'éloigne, plus on voit réapparaître, s'installer la violence archaïque, c'est-à-dire la loi du plus fort. Le plus fort, c'est un garçon de 16, 18, 20 ans, entouré de 2-3 lieutenants dont la violence lui augmente encore son pouvoir, et il prend le pouvoir dans le quartier. Et tout le monde l'admire. Tout le monde l'admire, il est riche, grâce à la drogue, grâce au trafic de la drogue, grâce au hold-up aussi. Il est riche, il a 3-4 femmes, enceintes, âgées de 13 à 15 ans, et il meurt à 22 ans au sommet de sa gloire. Alors, on voit à quel point le rituel bébête, le quartier, le bal populaire, la discussion après le théâtre. Les Grecs disaient que chez les Grecs, le théâtre avait une fonction démocratique, c'est-à-dire que les citoyens devaient aller au théâtre et les comédiens sur la scène jouaient les problèmes de la cité. Oedipe, l'esclavage, ils jouaient les problèmes de la cité. Et les citoyens devaient rester dans la salle pour discuter des problèmes qu'avaient mis en scène les comédiens. Donc c'est pour ça que je dis que le moment important du théâtre, c'est le restaurant. Parce que c'est là qu'on va au restaurant pour discuter et bien sûr ne jamais être d'accord. Alors cette violence d'image, je vais terminer là-dessus. C'est-à-dire cette violence d'image, elle existe aussi dans le réel, sauf que maintenant pour les jeunes, comme je le disais pour cette sportive qui avait été filmée et violée virtuellement, les jeunes ont de plus en plus de mal à distinguer l'image réelle et l'image virtuelle. Et ce qui fait dire ça, c'est Michel Tousignan, qui est sociologue à Montréal, et qui montre qu'un enfant qui a été isolé, un bébé, qui a été isolé affectivement au cours des premiers mois de sa vie, va devenir un adolescent qui ne sait pas contrôler ses impulsions et qui va être violent pour un rien. Et c'est dans cette population-là qu'on trouve 4 fois plus de dépression et 4 fois plus de suicides que dans la population générale. Si on cherche à expliquer par le contexte, on ne comprend pas. Si on fait des raisonnements systémiques et, comme on dit en médecine, longitudinaux, on découvre que c'est parce qu'il a été isolé précocement, bien avant la parole, qu'il n'a pas pu apprendre à contrôler ses émotions, et quand arrivent les émotions de la sexualité ou du désir ou de la volonté d'indépendance sociale, eh bien il ne sait pas le gérer. Il ne sait pas. Il passe à l'acte, il ne sait pas le gérer. Alors, ces facteurs-là, donc, je vais conclure pour dire que, finalement, avec la technologie, la première des technologies, c'est l'artifice de l'outil et l'artifice du mot. Ça a été le point de départ de l'aventure de la technologie, mais maintenant, on a l'artifice de l'écran. Or, avec la technologie, on arrive à un pouvoir de multiplier les émotions par 100. S'il y a une faille dans notre développement, on ne sait pas la contrôler, ou même on peut passer à l'acte sans avoir le sentiment de violence, la violence froide. Alors, cette violence virtuelle, elle n'a pas de frein, puisque, possiblement, beaucoup d'anthropologues américains, en suivant Christopher Ashe essentiellement, disent qu'on est en train de passer de la société de la violence oedipienne à la violence narcissique. Violence oedipienne, j'accepte de me soumettre à la loi de mon père, j'accepte de me sacrifier pour que ma famille ou mon groupe humain puisse survivre, j'oriente la violence sur moi, parce que je veux ressembler à papa, à maman ou à mon groupe d'appartenance. Violence oedipienne. Aucun sens aujourd'hui, on est en train de passer à la violence narcissique, c'est-à-dire seul mon plaisir compte, donc je peux très bien jouer à la violence. On peut très bien jouer, voilà, c'est ça. On peut très bien jouer à la violence, et on constate maintenant qu'il y a énormément de jeunes gens qui érotisent la violence, ils ont un plaisir physique. Quand j'ai discuté avec des jeunes qui allaient... Il y a eu le championnat du monde en France il y a quelques années. Alors bien sûr, vous avez tous été assistés à ces matchs de football. Et il y avait, à Marseille, il y a eu un match qui était, je crois me rappeler, Angleterre-Tunisie, ou un truc comme ça, je ne suis pas sûr. Et les supporters de chaque équipe se sont battus avec une violence incroyable, au point que les témoins ont fait des syndromes psychotraumatiques. Les témoins ont fait des cauchemars, tellement la violence était grande. Violence sans stupide. Je fais un lapsus, là. Violence stupide. Violence sans raison. C'est-à-dire que la seule raison, voilà pourquoi je fais le lapsus, la seule raison, c'était le plaisir physique, l'érotisation de la violence. Quand j'ai discuté avec ces garçons, il disait, j'ai peur, parce que je vais pour me battre, et on va se battre avec la plus grande violence possible. Et je sais qu'après, pendant une semaine, je vais éprouver une euphorie telle qu'on ne pourra pas dormir tellement on va se sentir bien. Narcisse, merci de m'avoir écouté.
Merci Boris Cyrulnik. Donc nous allons passer aux questions. Pour des raisons de, donc encore une fois, d'affluence et de brièveté, je vous demande d'être précis dans vos questions, que probablement d'ailleurs j'aurai à retransmettre à Boris Cyrulnik pour des questions d'audition. On entend assez mal d'ici. Oui, alors on va commencer en bas, hein, on montera ensuite au ciel. Pardon ? Si, vraiment. Vous les avez là ? Allez-y. Pas de questions ? Alors en haut aussi, mais on a un micro en haut ou pas ?
Non.
Oh, tous les soirs pareil. Non, parce que ça ne sert à rien, on ne vous entendra pas. Voilà.
Merci. Vous avez évoqué la stérilité de certains dogmes. Est-ce qu'il y a quand même des dogmes féconds ?
Voilà. Vous avez évoqué la stérilité de certains dogmes. Y a-t-il des dogmes féconds ?
Alors, non. L'idée qui m'est venue, c'est que, au début, probablement, il y avait une idée philosophique, scientifique, naïve de la vie quotidienne, mais que cette idée s'est imposée. Elle a pris le pouvoir et elle est devenue exclusive. Donc il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas d'autre. Et si vous avez une bonne idée scientifique ou artistique, si vous avez avec vous l'armée ou la police, ou si vous avez avec vous la télévision, vous allez chercher à imposer votre idée, votre forme d'art, votre forme de littérature, votre idée scientifique, et vous allez fusiller, déporter, rééduquer, torturer tous ceux qui ne seront pas d'accord avec vous. Donc le dogme ne peut que se renforcer. Et c'est un peu ce qu'on voit actuellement avec les publications de carrière. C'est-à-dire qu'il y a des revues scientifiques. Et les jeunes ne peuvent faire de carrière que s'ils ont un certain nombre de publications dans ces revues. Connaissant le thème de la revue, connaissant le comité de lecture, très rapidement, les jeunes savent les mots qu'il faut dire pour que leur article soit accepté. En échange de quoi, ils seront pris dans un labo, ils pourront faire une carrière. C'est-à-dire que ces publications de carrière évoluent vers la dogmatisation de la connaissance. Donc, dans un premier temps, c'est bien, parce que vous allez faire une carrière, vous allez être nommé, vous allez avoir un salaire, on va dire du bien de vous, ça va être tellement bien. Et puis, comme le monde, ce qui caractérise le monde, notre vie autour de nous, c'est le changement. On a toujours le sentiment d'être le même alors que tout change. Et on a l'étrange sentiment de rester le même, parce qu'on se fait une représentation de soi, alors qu'elle passe. On passe notre temps à changer. Et à ce moment-là, le dogme se désadapte tout seul. Il se désadapte et à ce moment-là, une pichenette l'effondre. Et si vous n'avez plus l'armée ou la police, à ce moment-là, vous allez être détruit, tué, jusqu'au moment où vous allez nommer un successeur qui proposera un autre dogme. On appelle ça l'histoire des idées.
Avant que une autre question, quelqu'un est venu et avant de vous avoir entendu m'avait communiqué une question, mais elle est pertinente, donc c'est quelqu'un qui vous avait lu. Est-ce que la communication silencieuse par mail, par SMS, etc. a une influence sur la violence?
Vous n'avez pas eu une autre question, non? Alors Oui, là,
vous avez parlé d'écran surtout, mais la communication sans contact, justement.
Alors oui, je pense même que, merci pour cette question, je crois que c'est comme ça que l'art vient dans l'esprit des enfants. C'est-à-dire que cette image, maman n'est pas là, j'ai peur, ce foulard que je perçois dans ma mémoire, il appartient à maman. Ce foulard représente maman. Donc en présence de ce foulard, j'ai plus peur. Et là, on est donc dans l'objet, la couleur, l'odeur, la forme, généralement représente celle qui d'habitude me sécurise. Elle n'est pas là, mais l'objet la médiatise. L'objet est là à sa place. Et avec mon chiffon, avec mon nounours, j'ai plus peur. Alors, Winnicott disait que c'est probablement le point de départ de l'aventure artistique des bébés. C'est avant la parole, bien avant la parole. Alors, ça me paraît convaincant. Si, par exemple, j'ai un ami, sa femme est en France, et lui, il est nommé pour un certain temps aux États-Unis. Et il dit, heureusement qu'il y avait Internet, parce que ça me permettait, ça nous permettait de penser l'un à l'autre tout le temps. C'est-à-dire que le lien était maintenu parce que c'était un équivalent de parole. Ce soir, je vais lui envoyer un mail, je vais lui dire ce que j'ai fait. Donc, elle vivait encore là, alors que lui était aux États-Unis et elle en France. Mais là, elle vivait encore. Donc, Internet permettait un lien affectif. C'est pas du tout le cas de ce qu'on voit à la télévision, où là, on a une chimère à la télévision. C'est-à-dire que comme beaucoup de gens dans la salle, il m'est arrivé d'être témoin d'événements sociaux, de guerres ou de choses comme ça. Quand je revoyais ce que j'avais vu dans le réel et que je le revoyais à la télévision, j'étais stupéfait. Je ne voyais pas du tout la même chose. Les journalistes n'avaient pas menti. Ils avaient fait une chimère. Dans la chimère, tout est vrai. Le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle, les pattes sont d'un lion. Tout est vrai dans la chimère, sauf que l'animal est imaginaire. Le reportage télévisé. Les journalistes ne mentent pas ou ils mentent peu. Ce qu'ils voient, s'il y a des journalistes dans la salle, mon espérance de vie va être fortement raccourcie. Ils mentent peu. Ils vont choisir, soit parce que leur propre histoire les a rendus sensibles à un type d'événement, soit parce que leur groupe d'appartenance leur dit d'aller chercher l'anticipation de la mémoire, dont je parlais tout à l'heure, leur groupe d'appartenance leur dit d'aller chercher ce genre d'information, ils vont la chercher, ils la trouvent, ils ne mentent pas. Sauf que ils ont fabriqué une chimère à laquelle nous, on se soumet.
Ici, à gauche.
Alors oui, je voulais avoir votre avis. Je voulais revenir sur les interactions précoces dont vous parliez. Je voulais avoir votre avis sur les prématurés qui sont hospitalisés assez longuement. Et je voulais avoir votre avis sur, en fait, les conséquences de privation de ces interactions précoces maternelles.
Vous avez parlé donc des interactions précoces et des problèmes de manque d'interactions précoces. Qu'en est-il concernant les prématurés?
Alors, les prématurés ne sont que prématurés. C'est-à-dire que les petits prématurés, ils vont continuer. Ils sont d'abord dans une couveuse naturelle qu'on appelle l'utérus. Et quand ils arrivent au monde, ils sont dans une autre couveuse naturelle qu'on appelle les bras de la mère. Donc, ils continuent leur développement, sauf qu'ils le continuent dans les bras de la mère, ou au lieu d'avoir quelques semaines dans l'utérus. Ce qui fait que, au bout de 10 mois, ils ont rejoint le développement de la population générale. Alors que dogme, quand Alexandre Minkowski, pendant la guerre, il va à Harvard, si bien qu'il ne peut pas rentrer en France parce que les frontières sont bloquées. Et il devient médecin aux États-Unis et il voit que les Américains font des services pour prématurés. Il rentre en France et il dit c'est merveilleux parce que les petits prématurés, on les rattrape tous. Ou ils se rattrapent dans des bras, dans une couveuse aérienne, alors qu'ils étaient auparavant dans une couveuse aquatique. On a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. Et là, ils quittent le monde aquatique pour arriver dans le monde aérien. Ils se développent pareil et ils ont un petit retard. Ils ont un petit trouble de l'accordage affectif, disait Daniel Stern. Mais ils le rattrapent, comme tous les apprentissages, comme tous les développements, ils le rattrapent en quelques mois. Quand il arrive en France en disant « je veux créer un service pour prématurés », les décideurs universitaires de l'époque, les nazis ont perdu la guerre des armes, ils n'ont pas perdu la guerre des idées. Et les universitaires marqués par les théories racistes, par la hiérarchie des êtres humains entre eux, les universitaires disent qu'il ne faut surtout pas faire de service pour prématurés de façon à favoriser la sélection naturelle. À moins les théories nazies. Alors, par bonheur, Minkowski avait un caractère de cochon, il ne faudra pas le répéter ça. Hein. Il a été bagarré et il a créé une équipe magnifique à Port-Royal, il a créé une équipe magnifique qui ont lancé une discipline à la fois scientifique, psychologique, qui donne d'excellents résultats.
Madame, oui, qui descendait du...
À vous, puisque
oui, nous ne sommes pas montés.
La montagne qui descend, voilà. N'est-ce pas? Voilà, vous avez dit en début de conférence, toute stimulation, drogue, alcool, etc., provoque une violence impossible à maîtriser. Est-ce exact?
La stimulation de
Toute stimulation provoque une violence impossible à maîtriser.
C'est exact? Alors, oui. J'ai une bonne question à vous poser. Comment ça se fait qu'il est interdit légalement de consommer du cannabis naturel alors qu'il est légalement autorisé à fumer des cigarettes, à boire de l'alcool, à entendre du bruit et à sentir des mauvaises odeurs?
Présentez-vous aux élections, vous aurez ma voix.
Merci. Donc j'ai apporté la réponse à la question et je voulais vous dire, monsieur Michaud, que vous dites dans votre dossier de presse il n'y aura plus ces conférences du savoir à cause des relais sociaux, donc d'Internet. Et M. Cyrulnik nous dit que Internet nous pollue et est une violence virtuelle. Et vous arrêtez les conférences du savoir parce qu'il y a Internet. Non. C'est absolument incroyable.
C'est pas exactement ça. Venez dimanche, je vous expliquerai en détail. Voilà.
Alors, il faut que j'apporte une petite correction. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Lorsque un être vivant est isolé, un mammifère, est isolé précocement, ses neurones préfrontaux ne sont pas stimulés et laissent se développer l'amygdale rhinencéphalique qui est le centre des émotions. Désormais, toute information prend pour eux la signification biologique d'une agression. Vous hochez la tête, pourquoi vous hochez la tête? Ça devient une agression. Parce que je n'ai pas appris à maîtriser mes émotions, puisque, au contraire, mon amygdale est hypertrophiée, elle n'a jamais été freinée. Il y a d'autres freins qui sont la parole, je vais vous expliquer, vous allez m'expliquer que vous ne voulez pas de mal, et petit à petit, je vais apprendre à comprendre vos mots. Ou alors, parce qu'il y a des rituels sociaux, des rituels d'interaction, on va se rencontrer régulièrement, vous allez devenir familière pour moi, vous allez vous imprégner dans ma mémoire, et finalement, et devenant familière, je n'aurai plus peur de vous. Si ces rituels sociaux n'existent pas, effondrement culturel, guerre, précarité sociale, précarité qu'il faut distinguer de la pauvreté. Je connais beaucoup de pauvres qui s'occupent très bien de leurs enfants. Je connais beaucoup de pays pauvres qui s'occupent très bien de leurs enfants. Précarité, c'est pas pareil. Je sais pas où on va dormir ce soir. Ça fait 3 jours que le frigidaire est vide. Voilà, ça c'est précarité. Donc c'est pas du tout la même chose. Précarité sociale, trauma répété. Alors on voit que dans ce contexte-là, on ne peut pas établir de barème de trauma. On ne peut pas dire il y a des traumas très délabrants et d'autres des petits traumas où lui, il s'écroule pour un rien. On ne peut pas dire ça. On peut dire peut-être il a acquis dans sa petite enfance, une vulnérabilité neuro-émotionnelle qui fait que, à l'adolescence ou à l'âge adulte, il devient très vulnérable à cette information qui, pour vous, provoque un sourire et, pour moi, est un traumatisme insupportable. Donc, ce n'est pas une relation de cause à effet. Il n'y a pas de relation directe cause-effet. Ce qui peut être un trauma déchirant pour l'un fait sourire l'autre.
Attendez, s'il vous plaît, là, madame.
Non, mais vous n'avez pas répondu à la question.
Non, mais...
Oh là là, allez lui donner une fessée.
Allez-y, madame, derrière.
Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, de la séparation imposée à des jeunes enfants. Vous parliez presque des bébés. Et je voulais poser la question, est-ce que la même chose peut survenir chez une préadolescente entre 10 et 11 ans, quand on la sépare sans vraiment de raison, puisqu'on n'a pas réussi avec la justice à comprendre quoi que ce soit, sauf que le juge a été déplacé ailleurs. Bon, je ne peux pas développer tout ça ici, voilà. Simplement, je voulais savoir que peut-il advenir de cette petite fille si elle menace l'entourage, s'il n'y a rien de fait, parce que ça dure depuis mois, de se sauver.
Là, vous rentrez dans le cas personnel, on a compris votre question, merci.
Que peut-on faire, c'est-à-dire, que peut advenir dans le cerveau de cette petite fille qui a 10 ou 11 ans, à partir du moment où on pense que même les bébés, et les bébés, bon, bah, ils sont aussi intelligents que les adultes.
D'accord.
Voilà. L'effet de la séparation selon les âges.
J'espère que j'ai pas employé le mot séparation. J'espère que j'ai employé le mot isolement. Alors, parce que c'est pas pareil. Si on est séparé et si on a un substitut familial ou affectif, on continue son développement. Alors que si on est isolé sensoriellement, la biologie de la solitude montre qu'après 3 semaines de privation de parole, je suis en train de citer Pierre Bustani, 3 semaines d'isolement de parole commence l'atrophie temporo-limbique droite. Mais à quel point biologiquement c'est important de parler, parce que la parole a une fonction neurologique et une fonction affective. Tout à fait, la fonction informative, j'allais dire, elle est presque accessoire. C'est-à-dire que la fonction informative, on avait fait pendant un moment des électroencéphalogrammes avec des étudiants. Et on avait constaté qu'on faisait des cours de 1 heure. Et on parlait, et on a constaté qu'au bout de 20 minutes, les 3/4 des étudiants étaient en stade 3 du sommeil lent profond. C'est-à-dire que, dès l'instant, si la séparation, c'est un mot, j'espère que je ne l'ai pas employé. Moi, je voulais parler, si on est séparé, d'abord à l'adolescence, il faut se séparer. À l'adolescence, il faut quitter sa mère et son père, sinon on garde un statut d'enfant. Mais il faut trouver des copains, un métier, une fiancée, un fiancé, pour pouvoir continuer son développement. Donc la séparation, si c'est pour changer de bras, changer de famille, c'est un progrès. Ça ne veut pas dire qu'on se détache de ses parents. On continue à les aimer, mais on les aime comme un jeune adulte et non plus comme un bébé. La séparation est donc nécessaire, l'isolement est dangereux.
Une question ici. À gauche.
Je voulais demander à Boris Cyrulnik, par rapport à la représentation de la violence et ce que tu viens de dire, est-ce que tu as une idée comment peut-on faire pour éviter le cercle vicieux de la représentation de la violence? Par exemple, les gens qui n'achètent pas la télévision, qui n'utilisent pas Internet, qui ne donnent pas leur numéro de téléphone, qui sont très méfiants maintenant, et qu'effectivement, il y a de la communication, mais il n'y a pas de la relation. Et donc, on a, bien sûr, le taux de divorce, de la séparation, des misères, et les malheurs qu'on vit actuellement. Alors, est-ce que toutes ces misères, elles sont institutionnalisées? C'est la société française qui a fait ça, alors que les Africains sont plus heureux que chez nous? Ou est-ce que on peut arrêter ça, et comment? Merci.
Je dirais pas ça. Hein. J'ai travaillé au Congo, au RDC, j'ai travaillé au Rwanda, je retourne au Congo bientôt, je dirais pas qu'ils sont plus heureux que chez nous. Hein. Mais Je pense que, par exemple, quelqu'un, un prêtre, un artiste qui est seul, qui coupe son téléphone, qui n'ouvre pas cette redoutable machine, il n'est pas seul. Il est plein, un prêtre est toujours en communication. Beaucoup de religieux m'expliquaient qu'ils étaient en extase constante. Un artiste n'est pas seul, il est toujours en train de chercher une représentation. Ce n'est pas un isolement sensoriel. L'isolement lui permet d'être mieux en relation avec sa peinture, son livre, son Dieu. Il n'est pas seul. Ce qui délabre un cerveau, c'est l'isolement sensoriel. Les prisonniers, les malades dans les hôpitaux psychiatriques qui sont mis en isolement sensoriel, eh bien, ils délirent encore plus. Ils sont encore plus violents. Parce qu'ils n'ont pas l'effet régulateur de l'autre, la présence effet sécurisante de l'autre. Quant à les sécurisantes, la parole, les rituels, ils l'ont pas. Donc la violence est exacerbée. Et ça explique des réactions parfois critiquables. Parce que si on les isole, on est obligé d'augmenter les traitements, ce qui ne les guérit pas. C'est-à-dire qu'on calme ce qu'on a provoqué. Donc ce dont je parle, c'est l'isolement sensoriel, mais l'isolement qui permet une communication et une plénitude. Par exemple, les amoureux, même quand sont jamais seuls, là ça vous apprendra. C'est-à-dire qu'un amoureux est toujours plein de l'idée qu'il se fait, qu'elle se fait de l'autre. Il n'est jamais seul. C'est-à-dire que c'est pour ça que les psychanalystes disent que le moment amoureux, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal.
Alors, on va prendre une dernière question.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez faire un petit parallèle entre l'isolement d'un bébé et l'isolement dans le grand âge, qui tous les deux développent parfois des très grandes agressivités? Est-ce qu'il y a une régression au niveau du cerveau?
Voilà. On vous demande qu'en est-il du parallèle entre l'isolement d'un bébé et l'isolement du grand âge et le rapport qu'il peut y avoir à l'agressivité.
Merci pour cette question. Parce que un bébé est en développement fulgurant. 200 à 250 000 synapses par minute pendant les premières années. Toute information à ce stade de développement laisse une trace. La violence parentale, le malheur parental, la mort de la mère, la guerre, ça laisse une trace non consciente. C'est une trace sans souvenir. C'est-à-dire, mais la mémoire, elle est le cerveau, il est circuité. Comme les Américains emploient ce vilain mot de circuiterie cérébrale. Le cerveau est circuité par l'événement qui laisse une trace dans le cerveau et l'enfant a acquis une sensibilité particulière à un type de monde. D'où la nécessité d'avoir une niche sensorielle sécurisante. Si c'est la mère, c'est bien. Si c'est le père, ça marche bien aussi. Si c'est une autre femme, si c'est une institution, ça marche aussi. Mais il faut qu'il y ait une niche sensorielle stable et sécurisante autour du bébé. Pour les âgés, c'est un peu différent. Quand les âgés, la mémoire des personnes âgées est particulière. La mémoire implicite est mauvaise. Les enfants peuvent apprendre toute langue en 10 mois, sans livre, sans école, sans prof, en 10 mois, entre le 20e et le 30e mois, un enfant apprend n'importe quelle langue, même la plus compliquée. Essayez de refaire cette performance ensuite. C'est-à-dire que cette performance intellectuelle est due à une synaptisation fulgurante, à des oreilles précises qui apprennent la sonorité des mots. Et en 10 mois, la performance est faite. Les âgés, la mémoire implicite, celle qui est des traces, est très mauvaise. Les traces synaptiques ne se font plus. En revanche, la mémoire ancienne reste excellente. Et c'est ce qui explique que les âgés se rappellent le nom de leurs copains de classe quand ils avaient 8 ans ou 10 ans, alors qu'ils oublient régulièrement le nom des gens qu'ils ont fréquentés pendant les 2-3 derniers mois. C'est-à-dire que la mémoire prend une forme particulière. Et là, ça pose un problème. Si au cours de leur histoire de vie, ils ont eu des traumas. 50% des gens dans la salle ont eu un traumatisme. Si on les a sécurisés, si on les a entourés, ils ont dans leur mémoire, ils ont le trauma et la victoire contre le trauma. Quand ils arrivent à la mémoire âgée, la mémoire implicite est mauvaise, ce qui reste dans la mémoire, c'est la victoire que j'ai eue sur ce trauma. J'ai souffert et pourtant j'ai triomphé, j'ai repris un développement, j'ai appris un métier, je me suis débrouillé. Voilà. Ça, s'ils ont été abandonnés au moment du trauma, on les a laissés seuls, ils ont souffert, ils arrivent à l'âge, grand âge, ce qui reste dans la mémoire, c'est j'ai été abandonné. Et ils se remettent à souffrir de problèmes qu'on croyait enfouis ou résolus. Ce qui veut dire que le temps ne joue aucun rôle dans l'affaire. Ce qui joue dans l'affaire, c'est le soutien et le sens. Soutien, une présence affective préverbale. Monsieur Michaud est là, j'ai pas peur. Je suis sécurisé, c'est une image maternelle qui me sécurise, donc ça va. Et le sens. Il va falloir qu'il me dise pourquoi il m'a invité. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que ça donne sens, cette invitation. Donc là, il va falloir qu'on débatte, il va falloir qu'on... C'est les deux mots qui permettent de, aux âgés... Alors, Saint Jean Perse disait, le grand âge, c'est l'âge du sens. Et ce que votre question me rappelle, quand j'étais neurologue, j'avais un jour visité à domicile une dame qui ne pouvait plus marcher, qui était âgée, et qui ne pouvait plus marcher. Donc son mari faisait la tambouille, et elle, elle était dans sa chaise, et je me mets à bavarder avec elle, et puis tout d'un coup, je dis quelque chose qui l'a fait pleurer. Alors j'étais embêté, j'étais pas venu là pour ça. Et puis, elle, alors je lui dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit à voix haute, devant son mari en train de touiller, et elle dit à voix haute, c'est pas lui que j'aurais dû épouser, c'est le violoniste. Alors, le violon... Alors ensuite, elle me dit qu'à 24 ans, elle avait eu un moment d'indécision entre ce fonctionnaire qui était gentil et la sécurité, et le violoniste qu'elle avait regretté toute sa vie et qui, au grand âge, revenait dans sa mémoire.
Eh bien, nous allons en tenir là parce que c'est trop beau. Merci. Merci, Maurice. Je vous demande d'évacuer la salle rapidement parce que nous avons à faire le démontage et merci.